Reportage.
Reportage.
Culture.
Environnement.
Vie associative.
Éducation populaire.
Santé.
Développement local.
Démocratie.
Reportage.
Reportage. Eh ben, salut Alain.
Salut Ismo, bonjour.
Alors, dans le cadre du festival Friction du Réel, organisé par le Théâtre Les Airs, tu organisais une conférence, une table ronde même, cohabiter avec tous les peuples de la Terre. C'était en Darta, c'était le jeudi 26 mars. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter ?
Volontiers. Donc Alain d'Angoisse, je suis un membre plutôt actif de Écologie au quotidien, ici à Die.
Donc tu étais avec Écologie au quotidien pour l'organisation de cette table ronde. Il y avait également d'autres associations qui étaient représentées à cette table ronde. Il y avait la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Il y avait également Jain Agat et le comité d'Iwa Palestine, donc qui était représenté par Nicolas, qui nous a fait un témoignage assez poignant de son expérience au retour de Cisjordanie. La thématique du festival Friction du Réel, c'est cohabiter. Alors j'ai envie de te poser comme première question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cohabiter ?
Dans l'épopée que nous menons Écologie au quotidien et plus largement, cohabiter, c'est habiter le territoire avec tous les vivants, humains et non humains. Et dans ce contexte-ci, j'avais été très, très, très touché, voire bouleversé, au mois de janvier, même un peu avant, dans une liste Signal, où Nicolas nous témoignait ce qu'il vivait dans son voyage en Cisjordanie, en Palestine occupée. Et en remerciant déjà, et encore Mathieu et toute l'équipe de théâtre, de proposer des passages de cohabitation, cohabiter avec les peuples de la Terre, c'était l'intuition, ou l'inspiration, ou l'intention. Il y a des peuples qui sont en immense souffrance de par le monde, la Palestine, la Cisjordanie, mais maintenant l'Iran, de plusieurs manières en Iran. On peut aller jusqu'à l'Afghanistan, les Ouïghours, etc. Et donner la place de la parole d'un peuple en souffrance, grâce au témoignage de Nicolas, c'est un peu ça la motivation. Et pour la Ligue des droits humains, c'était évident de s'y associer, d'y contribuer. Le comité Palestine passe sur leur vibration tous les jeudis soirs.
Oui, parce qu'on rappelle qu'ils se réunissent sur la place publique tous les jeudis soirs devant la cité scolaire.
Depuis plus de 2 ans, de manière spontanée, auto-organisatrice, c'est vraiment fascinant. Et Jain Agat, c'est un engagement que nous partageons avec quelques-uns, un engagement qui nous vient de l'Inde, c'est un mouvement gandhien, de choix de la non-violence par et pour la non-violence, mais pour résister à ce qui détruit, ou protéger et soutenir ce qui donne la vie.
Ce soir, je vais vous faire un témoignage d'à peu près 30-35 minutes sur ce que j'ai vécu là-bas, puisque je suis parti en Cisjordanie en soutien aux familles cisjordaniennes présentes là-bas. Je suis parti début décembre de l'année dernière. Donc j'y suis resté le mois de décembre et le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui a été déclencheur ? Alors, oui, depuis le démarrage, je fais partie du collectif d'Iwa Palestine. Voilà, on se réunit le jeudi. Et un jour, au mois d'octobre, à la mi-octobre, je tombe sur un article d'un média internet en ligne qui s'appelle Basta. Et basta, il y avait un article qui disait, ben voilà, on cherche des volontaires internationaux, il y a une association sur place, et voilà, si vous avez du temps, voilà les missions, etc. Il y avait un article de plusieurs pages qui est là, et qui m'a inspiré, que j'ai lu dans sa totalité, et à la fin, il y avait une adresse mail pour rejoindre l'association. Donc j'ai pris contact via cette adresse mail, j'étais mis en contact avec... des personnes qui parlaient anglais, je ne sais pas de quel pays ils étaient, c'est difficile à dire, mais peut-être les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Australie. Et assez rapidement, j'étais placé dans un protocole, un processus d'intégration, parce qu'ils font un peu attention à envoyer des gens qui ont... voilà, c'est quand même des missions un petit peu risquées. Cette association, elle s'appelle International Solidarité Mouvement. Elle existe, alors c'est une association palestinienne qui est gérée par des Palestiniens. Elle existe depuis 2001, donc ça fait une quinzaine d'années. Alors il y a quatre principes fondamentaux. Le premier, c'est donc dirigé par des Palestiniens. Le deuxième, c'est la non-violence. Le troisième, c'est des décisions qui bien souvent sont prises au consensus. Enfin, la volonté, c'est d'aller vers le consensus et pas d'un système pyramidal avec des gens qui prennent des décisions et qui les imposent. Et le quatrième principe, c'est le respect de toutes les minorités de genre, d'âge, de couleur, de voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé à remplir un formulaire de 5 ou 6 pages pour raconter qui j'étais, qu'est-ce que j'avais déjà fait, quelle était mon implication dans divers mouvements militants. Et puis, on m'a proposé une réunion via Internet, là, Zoom, qui a duré 4 heures, avec des thèmes sur lesquels on se retrouvait dans des petites chambres. Alors, on était une quarantaine, mais on se retrouvait dans des petites chambres à 30, avec un animateur, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que la non-violence, comment on réagirait par rapport à telle situation. On était mis sur des cas assez concrets. Et petit à petit, il y a des gens qui ont quitté le processus. Il y a eu cette première formation, puis une deuxième. Et puis, rapidement, on m'a demandé, OK, toi, tu as envie de partir à quel moment? Quelles sont tes disponibilités? Donc, j'ai donné mes disponibilités et j'ai été mis en relation avec un travel support, quelqu'un qui m'a aidé à organiser mon voyage. Alors tout ça, je vous l'explique parce que j'ai l'impression de passer pour un agent secret, ce qui n'est pas le cas, mais c'est ils font quand même très attention. Déjà, rentrer à Israël, en Israël aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, ils vous apportent, l'association, compte tenu de son expérience, apporte des conseils pour éviter d'arriver à l'aéroport, d'être repéré parce qu'on est fiché, parce qu'on a dit telle chose, parce qu'on a tel document ou tel badge sur le truc ou tel t-shirt, et d'être tout simplement refoulé dans le pays d'origine. Ça arrive assez souvent. Donc j'ai une adresse signale d'une personne en Palestine avec laquelle je dois prendre contact une fois que j'arrive à Jérusalem. Donc je prends un transport pour aller à Jérusalem, je vais à la place de Damas. À la place de Damas, je descends du bus et je vais dans un commerce pour acheter une carte SIM locale. Je la mets sur mon téléphone, je télécharge Signal et à ce moment-là, je prends contact avec cette personne qui sait que je vais arriver, mais moi je ne la connais pas, et qui me dit « Ok, tu es Nicolas, tu viens dans le cadre de l'ISM, on a rendez-vous à tel endroit, tu prends tel bus » et elle me donne des points GPS. La Cisjordanie, donc vous avez la bande de Gaza le long de la mer, et la Cisjordanie, c'est la partie qui ressemble un peu à un 8 inversé, là, en marron clair, et ça, c'est plus petit que le département de la Drôme, en superficie. C'est assez petit, mais c'est très compliqué de se déplacer, parce qu'il y a des checkpoints partout, parce qu'il y a des belles routes, mais qui sont réservées aux Israéliens, donc si vous n'avez pas les bonnes plaques d'immatriculation, vous ne pouvez pas les utiliser. Mais c'est effectivement assez petit. Quand je suis arrivé à 17h le soir, on m'a tout de suite mis en binôme avec une autre personne. Et une heure après, j'étais dans une famille, une ferme bédouine, pour apporter le soutien aux gens qui, en fait, sont harcelés toute la journée et qui, le soir, ont envie de dormir. Donc, on prend le relais, donc on est deux, et on assure des quarts de nuit. Voilà, l'un des deux est toujours éveillé pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant que l'autre dort, et on fait des permutations comme ça jusqu'au petit matin. Et le matin, on rentre sur l'appartement, se reposer, se prendre une douche et repartir le soir dans une autre famille. Voilà. Et sur chaque lieu, il y a à peu près une quinzaine de fermes. Alors, je dis des fermes parce que nous, l'association, est très focus sur les fermes isolées qui sont habitées par des Bédouins. Donc, c'est des gens, historiquement, qui étaient nomades et qui, en 48, puis en 67, on les a sédentarisés. Ils sont sédentaires, mais aujourd'hui, puisque les Israéliens avancent et revendiquent leurs terres, revendiquent leurs fermes, revendiquent leurs troupeaux, et donc, ils sont harcelés et donc ils sont fatigués, il y a une pression régulière et ils viennent la nuit, il y a des vols de... Alors ce sont des éleveurs, ils ont en général beaucoup d'enfants, il y a des familles, une famille classique c'est 8, 10, 12 enfants, j'ai rencontré un monsieur, il en avait 24, donc, voilà, il y a vraiment, vraiment, et c'est un petit peu, ils n'ont pas beaucoup d'argent et c'est surtout ça qui leur permet de continuer à vivre parce que... Ils ont quelque chose de très fort lié à la procréation et au fait de faire des enfants. Ça, c'est sûr. Donc, ce sont des éleveurs. Ils ont des brebis, des moutons qui sortent le matin autour pour aller paître dans les pâturages là, qui sont ouverts. Et de plus en plus, ces zones de pâturage leur sont restreintes parce que les colons viennent. Alors... quand il y a par exemple le colon qui arrive avec son troupeau et son âne, la première réaction des Palestiniens, c'est de se disperser très très vite et de ramener toutes les bêtes qui sont en train de paître. Pourquoi ? Parce que s'il y a une altercation, les troupeaux qui se mélangent ou les gens qui ne sont pas d'accord et qui, voilà, une altercation physique, l'armée intervient et donne toujours raison aux Israéliens. Et donc, la première chose que font les gens, c'est de rassembler les bêtes, les remettre dans les enclos, et les hommes les plus forts s'enferment dans les maisons, ferment les volets, parce que là aussi, ils n'ont pas envie de se retrouver en confrontation avec les colons. Alors quelquefois, les colons, c'est quelquefois le berger qui a 18 ans, qui est encore presque pubère, et qui vient narguer les Palestiniens avec son troupeau. Et malgré tout, ces gaillards qui mesurent 1m90 et pèsent 90 kg, qui sont des bêtes de la nature, ils vont s'enfermer, ils attendent. Alors, moi, je ne comprenais pas au début, et en fait, souvent, les colons, pour s'amuser, ils s'en prennent aux enfants. Et donc, quand c'est son propre enfant qui est en train d'être emmerdé par un colon, eh ben, souvent, le Palestinien, il va réagir, et donc, ça, c'est l'escalade, et l'armée vient, et la personne est envoyée en prison, et va passer une journée ou deux, ou parfois plus. Voilà, et voilà, ça c'est une scène assez classique où vous avez à gauche donc le jeune Israélien qui vient avec son troupeau, qui vient faire paître son troupeau dans un champ d'oliviers à la vue des Palestiniens. Et ils ont tous les deux un téléphone qui ils se filment l'un l'autre. Voilà, parce que s'il y a une altercation, il faut savoir qui a commencé. Enfin, c'est. Au début, je comprenais la démarche, mais après, quand j'ai compris que de toute façon, quand l'armée venait, c'était forcément les Palestiniens qui étaient en faute. Mais voilà, ça c'est le harcèlement assez classique de venir avec son troupeau et de faire paître les bêtes. Les Palestiniens regardent ça, peuvent pas faire grand chose. Ils serrent les poings, ils serrent les dents. C'est un pays occupé et on vous explique que tout est dangereux. Et eux, quand ils sortent de leur colonie, les Israéliens, ils ont un grand panneau rouge avec des gros caractères blancs. Alors c'est écrit sur la moitié du panneau en hébreu et en dessous en anglais. Et ce qui est dit, c'est que attention, vous quittez une zone sécurisée, vous rentrez dans une zone non sécurisée, les Palestiniens sont des terroristes, restez sur les... ne vous arrêtez pas, il y a des conseils comme ça, et ces panneaux-là, vous les trouvez partout, partout, partout. Ça se passe précisément. À un moment donné, les gens disent que c'est trop risqué, de... parce que toute leur fortune, c'est leurs animaux. Donc c'est trop risqué de garder les bêtes ici, donc on va les envoyer ailleurs. Donc on envoie les bêtes chez un cousin, sur un autre lieu, parce qu'ici, il y a trop de pression des colons. Donc les bêtes ne sont plus là. Peu de temps après, les femmes et les enfants partent aussi, parce que c'est compliqué. Et donc, il reste les hommes. Il reste les hommes au campement, qui n'ont plus d'activité, qui sont séparés de leur famille, qui sont séparés de leurs bêtes, et toute la journée, j'ai envie de dire, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, et voilà, et ça dure un mois, ça dure trois mois, ça dure six mois, et à un moment donné, les gens, ils partent. Et moi, j'ai vu en deux mois de temps, quand je suis arrivé, les premières nuits que j'ai fait là, dans l'extrême sud à Massafayata, la première nuit, il ne s'est rien passé. Et puis quand on s'est retrouvé avec les autres internationaux, ouais, comment ça s'est passé la nuit, il y avait un binôme où il y avait eu quelque chose. Des colons qui étaient venus avec des quads faire de la musique, et puis ils ont fait tourner un drone au-dessus de la ferme à 2h du matin, voilà. Rien de très méchant. Bon, et puis les semaines ont passé, et quand je suis parti, la dernière semaine, tous les soirs il y avait quelque chose. Et de plus en plus, les gens nous disaient, c'est sympa, vous venez la nuit, mais vous ne voudriez pas venir dans la journée ? Et en deux mois de temps, moi, j'ai vu la situation se dégrader très, très vite. Et puis, le colon, là, c'est un gamin, lui, il venait. Et puis, un jour, il est venu, il a rentré son troupeau dans la tente. Donc, l'armée est venue, deux véhicules. Un peu plus tard, deux autres véhicules, ils étaient quatre véhicules. Ils ont démonté tous les systèmes de surveillance qu'il y avait autour du campement. Ils ont arrêté deux internationaux, ils ont arrêté deux activistes israéliens, parce qu'il y a quand même, j'en parlerai, il y a quelques activistes israéliens qui viennent aussi faire le travail qu'on fait, nous, internationaux. Et puis, ils ont commencé à dire, est-ce que vous avez les papiers qui justifient que cette terre vous appartient ? Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Donc, ils ont produit des papiers. On leur a dit, bah, ces papiers, ils sont pas bons. Voilà, vous allez recevoir un ordre d'expulsion. On va démolir le truc, etc. Et ça, c'était un vendredi. Ensuite, ils sont allés, les militaires, dans le village qui est juste à côté, El Mougahir. C'était la sortie du culte du vendredi, hein, la mosquée. Ils ont balancé des fumigènes à la sortie du culte. Il y a un gamin qui a jeté des pierres, il s'est fait tuer sur place. Ils se sont acharnés sur un jeune qui était sur une chaise roulante, qui était handicapé. Il y a eu des coups de feu. Et puis ensuite, ils sont allés sur la seule entreprise que compte le village, une grosse entreprise qui fabrique des carrelages. Ils ont attrapé le patron, ils ont démonté tous les systèmes de surveillance aussi. Le patron, ils l'ont amené au poste, il est en prison, ils l'ont envoyé en prison. Ça fait 70 ans que ça dure et que aujourd'hui, ils veulent récupérer à la fois les terres, les troupeaux, et puis surtout que les gens soient cantonnés dans des villages. Après ça, qu'est-ce qui se passera au niveau des villages ? Mais c'est plus facile de contrôler un village par l'entrée nord, sud, est, ouest, plutôt que d'avoir des fermes un peu disséminées partout. Donc aujourd'hui, leur cible, c'est les fermes isolées.
Qu'est-ce que c'est pour vous, cohabiter ?
Ben, cohabiter, pour moi, c'est de vivre dans un espace commun, de partager un espace commun, en respectant l'histoire un peu de chacun, en respectant le vécu de chacun et en essayant de transmettre des valeurs aux générations futures, des valeurs positives justement de cohésion sociale et de respect des uns des autres. Pour moi, c'est ça, cohabiter en fait.
Un une autre forme de harcèlement. Ça, c'était du côté de Jéricho, donc toujours dans la vallée du Jourdain. Ils viennent avec les colons, un matin, ils viennent avec un tracteur agricole qui tire une remorque. Et dans la remorque, il y a des dattes. Mais elles sont avariées. C'est-à-dire elles sont impropres à la consommation, elles sont véreuses, elles sont pourries, elles sont trop mûres passées. Bon, bref, elles sont jetées. Et ils viennent et ils bennent les dattes devant la maison. À la vue de tout le monde qui est là et qui regarde. Voilà. Donc, les activistes israéliens sont allés à la police. La police a dit « Ouais, on va venir voir ». Deux jours après, ils sont venus voir. Ils ont dit « Oui, on va leur dire qu'il faut les ramasser ». Donc, bon, il s'est passé deux jours, trois jours. Il fait quand même assez beau. Il fait 20 degrés, 25 degrés dans la journée. Donc, ça commence à pourrir encore plus. Ça sent fort. Il y a les animaux qui mangent les dattes, qui sont malades parce que ça ne doit pas être terrible au niveau de digestion. Il y a des mouches, il y a des insectes. Ça dure. Et puis, les colons reviennent au bout de... peut-être 10 jours après, ils reviennent avec un tracteur, une remorque. Et ils remettent 3 tonnes de dattes au-dessus des premières. Alors la famille, là, elle était quand même bien démoralisée, parce que ça faisait longtemps qu'elle résistait. Les bêtes étaient déjà parties, il y avait encore les femmes et les enfants, les parents étaient là, les hommes. Et quand je suis parti, ils disaient « on fait le ramadan et on part après ». Donc voilà, encore un lieu que j'ai vu vivre et mourir. Vous voyez la carte sur le côté, là, tout est israélien, en dehors de tout en haut, là, ça s'appelle Bardala. Et c'est juste à côté d'une zone militaire. Et là, il y avait... ce sont des terres très fertiles, et donc très prisées. Et là, ils ont très, très envie de s'installer, voilà. Et là, il y a eu énormément aussi de harcèlement, de... Ça a été très très difficile, cette zone-là. Voilà, ça c'est un ordre de démolition. Donc ils sont venus. Ils avaient demandé que les Palestiniens justifient qu'ils étaient propriétaires du lieu, de la maison, de la terre. Ils ont justifié, ils ont dit non, ça n'a plus de raison d'être. Et d'ailleurs, le nouveau propriétaire veut récupérer ce lieu. Donc voilà, il y a un Israélien qui, peut-être qu'il a donné un peu d'argent à l'État, et il considère que c'est à lui, donc il y a un ordre de démolition, et les gens doivent partir. Aussi simple que ça. Le village qui est juste à côté de Al-Mugarir s'appelle Abu Najet, et c'est un village qui comprend une quarantaine de personnes, sur 5 ou 6 familles. Et c'est un campement qui est un peu sur une butte comme ça, qui est assez bien structuré, assez bien organisé. Le soir de Noël, c'était le 24 au soir à 18h, il faisait déjà nuit. Il y a 60 colons qui sont descendus de la colonie qui est juste à côté, avec des pierres et des baramines pour attaquer le lieu. Et ils ont jeté les Palestiniens se sont défendus, ont jeté des pierres, se sont interposés. Et finalement, ils n'ont pas réussi leur coup, ils sont repartis. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait 2 internationaux qui restaient sur ce lieu, uniquement la nuit. Ils nous ont demandé de venir sur une amplitude beaucoup plus grande et de venir aussi la journée. Donc moi, on m'a demandé si j'étais OK pour me déplacer. Donc je me suis déplacé d'un lieu pour aller à ce lieu. Et donc je suis arrivé le lendemain soir de l'attaque. Donc il y avait un espèce de traumatisme dans les familles. Tout le monde avait les dents serrées, les femmes. Voilà. Et les enfants étaient en train de remplir des seaux de cailloux en se disant, ils vont revenir ce soir et on aura au moins des cailloux qui seront prêts devant les maisons. Vous voyez, l'état d'esprit. Et moi, je me suis fait agresser par une femme, une Palestinienne. Alors évidemment, je parle pas arabe, je comprenais pas ce qu'elle disait, je l'ai arrêté, j'ai pris mon traducteur, là, Google, pour pas le citer, et j'ai écouté, et elle a parlé dans le truc, et j'avais la traduction en direct. Et elle disait, qu'est-ce que vous faites les internationaux? Qu'est-ce que vous êtes français? Qu'est-ce que vous faites la France? Vous vous rendez compte ce qui se passe ici? On est attaqué, on est chez nous, ça fait 50 ans qu'on est là. Et c'est vachement difficile, c'est très très difficile. Et... c'est sans doute... il y a eu toutes les altercations avec les colons, etc. Mais je trouve que cette partie-là, c'est ce qui est humainement le plus difficile à accepter. Et c'est vrai. Et qu'est-ce que je pouvais dire? Rien du tout. Presque rien du tout. Et je finirai juste par une anecdote. Quand je, Donc je suis rentré par la Jordanie, par Amman, et je suis ressorti par la Jordanie, par Amman. Et j'avais mon avion à 3h du matin, et donc j'ai voyagé la matinée, parce que la frontière est ouverte uniquement le matin. Et donc je suis arrivé à Amman en début d'après-midi, j'avais du temps, et je me suis un peu baladé, j'ai acheté un peu des figues à ramener, des petites bricoles. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais me diriger tranquillement pour aller à l'aéroport, et j'ai cherché un taxi. Et il y a un jeune qui m'a pris, et puis on s'est mis à discuter. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es touriste? Alors je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit, je me sentais en sécurité, j'étais plus en Israël ni en Palestine, je pouvais lui parler franchement, et je lui ai expliqué. Et rapidement, il m'a dit, moi je suis palestinien. Et tu vois, tous les gens qui sont là, à Amman, en Jordanie, il y a 60% de gens qui sont palestiniens. Et qui sont des gens qui ont quitté le pays ces 20, 30, 50 dernières années pour se réfugier ici et en attend une opportunité pour retourner au pays. Et donc il était très sympa ce jeune, un jeune d'une trentaine d'années, et je lui dis, écoute, moi j'ai mon avion à 3h du matin, on va s'arrêter, on va prendre un café, t'as du temps? Il me dit, ouais, un peu, pas trop, j'ai mes enfants. J'ai dit, bah écoute, toi tu veux partir, tu pars. Et on a discuté pendant 2 heures. Il m'a raconté toute sa vie. Et lui, il avait 29 ans, ça faisait 10 ans qu'il était en Jordanie, à faire le taxi. Il avait trouvé que ça comme boulot. Et il me disait, de toute façon, nous, on est prêts, on va rentrer au pays. Quoi. Vous voyez, ce truc très très fort. Je ne veux pas faire des grands projets ici, parce que je vais rentrer dans mon pays, et on est tous comme ça, on attend de rentrer en Palestine. Notre pays, c'est la Palestine. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire des clés. Les Palestiniens ont gardé la clé de leur maison. Hein, quand il y a eu la Nakba et qu'ils sont partis. Donc c'est souvent des vieilles clés en fer forgé, là, des trucs qui pèsent 1 kilo. Et il me dit d'ailleurs, dans la voiture, donc il a fini par me ramener, il me dit, si tu veux, tu peux regarder la clé de chez moi. Elle est dans la boîte aux lettres, dans la boîte à gants. Je lui dis, tu as la clé de chez toi, la boîte à gants? Il m'a dit, ouais, vas-y, ouvre. Et j'ouvre, et il y avait cette clé.
Qu'est-ce que c'est pour vous cohabiter ?
Pour moi, cohabiter, c'est partager, donner et recevoir. La première chose qui me vient en tête, ce serait être dans l'union et l'unité, tous les uns avec les autres.
Est-ce que ça te semble réalisable aujourd'hui, en 2026, la notion de cohabiter avec tous les peuples du monde ?
C'est fondamental. Il n'y a qu'une seule terre dont les limites sont connues, limites en termes de capacité de régénération, d'être notre support de vie. Il n'y en a pas deux, il y a une seule planète qui est support de vie, avec une couche, je ne dirais pas que c'est 1 mètre, mais enfin, il y a une couche d'humus de terre productive, de nourriture, etc., qui n'est pas très très épaisse en soi. Donc on a une seule terre et on est pour l'instant 7-8 milliards d'habitants. Comment on fait ensemble? Et ça concerne bien sûr la question du rapport écologique au vivant, à toutes les espèces, mais ça concerne aussi la manière de l'habiter ensemble. Et donc, tous les peuples de la Terre, pour Gandhi, c'était toutes les femmes et hommes sont sœurs et frères. Donc, comme une immense famille qui habitons la Terre, avec des rapports de proximité qui peuvent être très variables. Et Colette nous expliquait, Colette qui a vécu en Afrique, qui nous a parlé des oasis, nous disait, ben on voit que le désert progresse parce que l'agro-industrie a détruit progressivement ses capacités des oasis à accueillir des humains ou des humaneux. Et donc on va avoir des flux de migration de plus en plus significatifs, de plus en plus importants. Et nous sommes une seule famille, sur cette terre, une seule famille d'humains. Comment on va accueillir nos frères et sœurs qui ont des cultures différentes, même si le rapport à la maternité, le rapport à la vieillesse, le rapport à la santé, il est assez semblable partout. Voilà, ça, c'est un peu la question qui est derrière ça. Et reconnaître qu'il y a déjà souffrance, c'est quand même un pas important. On peut honorer la beauté de la vie, la joie d'être vivant, merci. Mais tout de suite, acceptons de reconnaître, et c'est douloureux peut-être de voir qu'il y a des personnes qui sont en grande souffrance, que ce soit économiquement parlant ou comme on a vu en Palestine avec la peur du quotidien, demain est-ce que je serai encore vivant, comment est-ce qu'on va manger, puisque les colons détruisent les récoltes, détruisent les troupeaux, systématiquement. Le mot systématiquement est important, ça veut dire que c'est une œuvre de colonisation, d'appropriation d'un espace qui est habité depuis des générations par d'autres, avec du mépris. Les insultes sont impressionnantes. Et là, on vient dans une forme de culture hyper agressive qui est relativement insupportable. Donc, qui est tout à fait insupportable.
Ça veut dire quoi pour toi, cohabiter ?
Cohabiter, la première des pensées, se respecter. Se respecter, accepter les différences, parce qu'on est tous différents, autant d'humains que de différences, autant de religions, de cultures, de non-religions, de nationalité. Donc voilà, cohabiter, c'est être dans l'acceptation de soi pour bien pouvoir accepter toutes les différences. Et aussi, je pense que dans la cohabitation, quand on peut avoir des craintes ou des peurs, c'est la méconnaissance. Donc peut-être, mais aller en tous les cas vers l'autre pour apprendre de lui, pour effacer ses peurs. Et tout ça, c'est un lien, quoi. C'est une roue qui tourne, c'est comme l'univers, tous les humains, tout est dans l'échange, dans la vibration, et enfin voilà, cohabiter, c'est apprendre.
Ça veut dire quoi pour toi, cohabiter ?
Waouh ! C'est être solidaire. Il y a le respect aussi, être solidaire et se respecter. Et ouais, se découvrir les uns les autres. C'est un travail de patience aussi, tout ça. Donc voilà, là peut-être que ça met des graines pour le long terme, mais c'est aussi comment on prend en compte les gens qui sont pas là. C'est tout un truc.
Merci.